Bon, donc, tout le monde est là, voilà. Bien.
Ils sont enfermés les autres depuis Sarko.
C'est ça, oui. Bon, c'est pas un thème très populaire, mais je crois qu'il faut en parler, parce que je vais m'expliquer là-dessus, pourquoi il faut en parler. Récemment, j'ai écrit un tout petit texte à propos de ce meurtre dans la prison de Rouen, où un détenu, visiblement schizophrène, a tué un de ses co-détenus. Ils étaient à trois en cellule, et ensuite il a essayé de manger son cœur. Il n'a pas atteint le cœur, mais il paraît qu'il y avait une lésion au niveau des poumons. Et le troisième homme dans cette cellule a d'abord prétendu d'avoir dormi pendant cet acte, et ensuite il a avoué qu'il était tout à fait éveillé. Et ça a eu un certain écho dans la presse, et dans les médias, et un psychiatre travaillant lui-même Fleury Mérogis est intervenu, le docteur Cyril Canetti. Il a donné une interview à Libération où il disait des choses tout à fait intéressantes et sensées. C'est quelqu'un qui est progressiste, qui est loin d'être un réactionnaire, mais il disait quelque chose que j'ai déjà entendu d'un autre psychiatre travaillant à Marseille, à savoir qu'il ne faut pas augmenter les moyens des soignants dans les prisons, parce que si on fait ça, on va encore mettre plus de gens fous en prison, et ça va vraiment devenir dangereux. Et j'ai répondu à cet argument qui vaut ce qu'il vaut, qu'ils y sont déjà, et donc il faut quand même les soigner là où ils sont. Si on ne le fait pas, on fait courir des risques aux autres, et avant tout, on laisse des gens très malades à leur destin, ce qui n'est pas très humain. Bon. Et donc, il y a eu quelques échos à cette intervention, à ce texte très court. Il y avait une dame qui a écrit sur ce site de Libération qu'elle était apparemment très informée de ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les prisons, et elle a dit chacun doit garder sa place, et elle ne comprend pas pourquoi un psychanalyste peut intervenir dans une prison. Bon. Alors, donc, c'est cette question-là que je voudrais aborder avec vous. Pourquoi, effectivement? Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas faire des analyses en prison. D'une part, parce que les gens ne sont pas libres. Deuxièmement, on ne dispose pas du temps nécessaire pour garantir une cure analytique, même si celle-ci était très limitée. Mais il est clair que la psychanalyse doit s'intéresser à ce qui se passe dans les prisons, et spécialement aujourd'hui. Alors, il y a pour cela deux raisons. D'une part, il y a une tradition. Il y a une tradition importante, c'est-à-dire à partir de 1912, au moment où Freud a fait paraître son livre qui s'appelle « Tontes et mes tabous », les Freudiens les plus éveillés, les Freudiens de la première génération, ont réfléchi sur un travail criminologique. Pourquoi ? Parce que Freud, dans son livre, Tontes et mes tabous, au quatrième chapitre, suppose un acte criminel, à savoir un meurtre du père de la horde primitive, comme fondateur de la loi et de la culture. Donc les élèves de Freud ont pris ça très au sérieux, ils ont réfléchi là-dessus et ils ont dit il faut effectivement s'occuper des gens qui ont commis des délits et des crimes. Et à partir de 1912, quand Firenze écrit un petit article, mais une sorte de manifeste, les psychanalystes vont donc se consacrer à cette tâche, pas tous, mais à un certain nombre de psychanalystes très doués, qui s'appelle donc Ferenczi ou August Eichhorn, viennois, qui a fait un livre célèbre des années 20, qui s'appelle donc Jeunesse abandonnée, qui s'occupait des jeunes délinquants. Et plus tard, une grande dame de la psychanalyse viennoise qui est allée à Londres, qui s'appelait Kate Friedlander, et beaucoup d'autres. Melita Schmiedeberg, la fille de Mélanie Klein, qui a même abandonné la psychanalyse pour se consacrer aux prisonniers, aux détenus dans une prison américaine. Bon, donc il y a une tradition, et donc pour les psychanalystes, il n'y a rien de très choquant de s'intéresser à cette question. Mais il y a, indépendamment de cette tradition, une autre question, à savoir que aujourd'hui nous avons, et spécialement en France, une situation sociale telle que les hôpitaux psychiatriques sont devenus extrêmement frileuses par rapport à toute population, tout individu un peu, disons, remuant ou dangereux. Les hôpitaux, même psychiatriques, même, ils accueillent même pas aujourd'hui d'une façon, d'une façon efficace et à long terme, des grands malades, des psychotiques. Ils les accueillent pour une semaine, si tout va bien et si la personne se présente bien pour plus longtemps, mais on essaie quand même de se débarrasser des malades parce que ça coûte très cher. Et à fortiori, on n'a pas les moyens, on n'a plus les moyens d'accueillir des gens qui, disons, qui sont quelque part dangereux. On n'en veut pas, donc il faut les mettre quelque part. Et parce que ce sont souvent des gens qui commettent soit des délits, soit des crimes, alors on les met en prison. Donc les prisons sont devenues des asiles comme existaient avant au XIXe siècle, au XXe siècle, les asiles qui avaient une fonction tout à fait importante, à savoir d'accueillir une population psychiquement malade et de les soigner. Simplement, les asiles, ça existe en partie encore aujourd'hui, bien sûr, ils accueillaient des malades pendant très longtemps. Parfois, ils ne les laissaient même pas, même plus sortir, bien sûr, ce qui était extrêmement problématique aussi. Alors, cette fonction, elle est très réduite aujourd'hui. La fonction des asiles, la fonction des hôpitaux psychiatriques, elles interviennent dans l'urgence et comme on peut effectivement traiter, calmer un certain nombre de formes de psychose par des médicaments, on essaie de remettre les gens à la société. Donc c'est quelque chose d'extrêmement problématique. Et l'effet de cette frilosité est que les prisons sont surpeuplées de malades mentaux. On a les chiffres officiels varient entre 16 et 24%, mais je pense que ce ne sont pas les bons chiffres. Je pense qu'il y a beaucoup plus, et avant tout, les grands agresseurs, au moins ceux que j'ai vus, je n'ai jamais pu écarter le diagnostic de psychose. C'est-à-dire, on peut discuter, on peut objecter au diagnostic que je propose. Un autre diagnostic, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a des cliniques différentes, il y a des cliniques qui admettent des malades borderline, donc des malades entre les grandes structures cliniques. Il y a quand même un certain consensus parmi les soignants qui veut ou qui dit qu'il y a énormément de fous dans nos prisons, des fous qui sont déjà passés à l'acte dans leur vie. Alors, on peut trouver ça, effectivement, c'est un état de fait qui n'est pas très, très agréable, mais en même temps, il faut dire aussi que c'est une situation dont il faut prendre acte quand on fait un travail social, et je considère que la psychanalyse a fondé un discours, un lien social, donc, et elle doit se positionner par rapport à ces questions. Et donc, on peut aussi inverser le problème, on peut s'indigner de l'état de nos prisons, ça je suis complètement d'accord, mais on peut aussi voir cette situation par rapport à ce qu'elle a de positif, à savoir que vous avez quand même un lieu aujourd'hui où les malades représentent une source de savoir. Et donc, le psychanalyste, s'il a un désir de savoir, et le désir de l'analyste est un désir de savoir, eh bien, il peut s'intéresser à ce savoir qu'on peut, d'une certaine façon, partager avec les malades, parce qu'ils sont prêts à parler, ils sont prêts à être écoutés. Et c'est un savoir d'autant plus intéressant que vous ne rencontrerez pas des malades qui ont ce savoir-là et qui peuvent en parler dans la société ailleurs. Vous ne les rencontrez pas dans les hôpitaux. Donc c'est une clinique quand même particulière. Donc, indignation, je suis tout à fait d'accord et je vais tout de suite, disons, aller dans ce sens parce que il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut reprocher à notre société considère le phénomène du crime et des délits comme finalement comme quelque chose qui est dangereux, qu'il faut d'une certaine façon contenir, mais qui ne montre pas un plus grand intérêt à ces choses que ce qu'elle veut voir dans des films policiers ou liés dans des romans policiers. Mais ce n'est pas cet aspect du crime qui nous intéresse spécialement, même si, effectivement, un roman policier peut apporter beaucoup de cliniques, ça c'est clair. Pour la question de l'indignation que nous avons, bien sûr, dont nous avons à témoigner, je voudrais simplement dire que une prison est un lieu de non-droit. Donc, même si les réformes aujourd'hui, les réformes entamées, vont dans le sens de garantir quand même un certain nombre de droits aux détenus. Mais je considère que ce n'est pas encore achevé et le non-droit ne vient pas forcément de l'autorité, c'est-à-dire des surveillants, de la direction et tout ça, mais ça vient très souvent des co-détenus. Donc il y a très peu de solidarité entre les détenus. Il y a plutôt le phénomène de groupe, c'est-à-dire ce qui signifie toujours aussi exclusion, n'est-ce pas? Donc quand un groupe se forme parce que un certain nombre de personnes viennent du même quartier et se retrouvent en prison, ils en excluent d'autres. Il y a aussi des groupes des individus qui sont plus forts que les autres et qui sont témoins d'une certaine violence envers les autres. C'est un lieu aussi où il n'y a pas ce que vous avez ici, c'est-à-dire de la culture, même si vous trouvez des bibliothèques en prison, mais c'est extrêmement limité. Mais il y a aussi quelque chose il y a une violence exercée par les surveillants, par les autorités. Je prends un exemple. Un monsieur qui a été mis en isolement, un monsieur de 48 ans, qui a été mis en isolement parce qu'il a fait une évasion avant d'être donc mis en examen. Évasion d'un commissariat où il avait été arrêté, évasion assez spectaculaire, donc qui a mis en cause, bien sûr, les policiers ou les gendarmes plutôt qui devaient le garder. Et on l'a tabassé, comme c'est souvent le cas, au commissariat, après sa deuxième arrestation, parce qu'il a été rattrapé, bien sûr, c'est-à-dire il s'est rendu, Et ensuite, il a été mis dans une maison d'arrêt. Et là, on l'a isolé. Il a été isolé pendant 2 ans, dans des conditions assez difficiles, avec tout ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, avec des étés extrêmement chauds, etc. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur pendant quelques mois, et il m'a raconté son histoire, et à la fin, il m'a fait une révélation assez spectaculaire aussi, à savoir qu'il n'était pas le coupable, que le crime qu'on lui reprochait, c'est-à-dire c'était un meurtre, avait été commis par quelqu'un d'autre, mais qu'il n'ira pas dire ça devant le tribunal qui avait donc à le juger. Bien sûr, dans une situation pareille, un soignant, qu'il soit psychanalyste, psychologue ou psychiatre, n'a aucune possibilité de vérifier ce que vous entendez, mais sa révélation était assez poignante, et donc je pense que la question de sa vérité se pose. Mais je ne voudrais pas parler de ce cas, je vais peut-être dire quelque chose un peu plus tard, mais je voudrais simplement raconter ce qui est arrivé à ce monsieur après cette révélation, à savoir, il a fait une commotion cérébrale, c'est-à-dire, il y avait un problème au niveau de la cervelle. Il est tombé par terre dans sa cellule, il a été trouvé par terre. Et les surveillants ont dit, voyons voir s'il ne simule pas. Donc, on l'a mis debout, il s'est effondré à nouveau, et donc là, ils ont accepté de constater son état de maladie. Et on a appelé, effectivement, un médecin qui voulait l'hospitaliser. Mais quand quelqu'un est en isolement, on ne l'hospitalise pas comme ça, c'est-à-dire on fait venir 4 ou 5 gendarmes et armés avec l'un avec une mitraillette, l'autre avec un pistolet, le troisième avec un pistolet électrique, et en plus on entrave. On entrave aux pieds et aux mains. Ce qui est problématique pour quelqu'un qui a subi une attaque assez sérieuse, et donc il a été amené, il fallait qu'il attende assez longtemps, et ensuite on l'amène dans un hôpital devant un médecin, et le médecin dit il faut l'examiner, il faut enlever les entraves aux pieds. Le médecin, les gendarmes ont dit pas question, on a un ordre strict qui veut qu'il reste entravé. Donc il fallait l'examiner comme ça. Donc vous avez quand même des comportements assez musclés qui prouvent ce que vous dira tout détenu. Du bon sens, c'est-à-dire il faut être en bonne santé pour survivre en prison. Donc ça c'est quelque chose qui est assez clair. Alors donc ce que je pense que c'est ce comportement extrêmement démonstratif de force. Alors que vous avez affaire à un homme qui est vraiment très, très gravement malade, est quand même induit par l'idée, il faut montrer à la société qu'on peut sécuriser, qu'on peut sécuriser un transfert d'un détenu d'un lieu à un autre, et donc la société doit avoir le sentiment qu'il y a un certain traitement, disons, adéquat par rapport à ces idéaux. Et donc, on peut vraiment dire que notre société demande non seulement que celui qui est condamné à une peine fasse sa peine, mais elle demande aussi qu'il doit souffrir un peu plus. Michel Foucault a très bien montré ça dans son grand livre « Surveiller et punir », que cette idée d'une douleur qui s'ajoute à la peine est absolument nécessaire à notre société pour qu'elle prenne acte de l'exécution de la peine. Et donc, il y a l'idée qu'il ne faut pas seulement punir une transgression, il faut aussi la venger. Visiblement, les autorités ont la mission de passer à cette plus de peine, plus de douleur qui est donc réclamée. Mais la relation entre le crime et la société est beaucoup plus complexe que cette idée de la vengeance qui ne devrait plus avoir cours aujourd'hui. Par exemple, dans un chapitre du Capital, Marx a une page très drôle sur le criminel, où il dit finalement le criminel contribue à l'économie comme le fait l'industriel, le philosophe, le poète, le docteur, etc. Et donc il montre d'une façon extrêmement ironique qu'il y a là une sorte de nécessité même du crime, une nécessité pour le bon déroulement de l'économie. Bien sûr, c'est un peu ironique, mais il fait ça d'une façon tout à fait convaincante. Le lien entre le crime et la société a été évidemment sondé par Freud, dans la mesure où il a posé la question qu'est-ce qui fonde après tout notre société à l'origine. Et donc il a supposé qu'il y a eu là le meurtre du père comme événement fondateur non seulement de la société, de la culture, mais aussi de la loi. Alors, cette question a été bien sûr, cette affirmation de Freud a été mise en cause et critiquée par les anthropologues et entre autres aussi par des psychanalystes comme Lacan. Donc pour Lacan, le meurtre du père n'a jamais eu lieu. C'est pour lui une construction de Freud qu'il conteste, mais il la conteste d'une façon très intelligente, il ne la rejette pas. Il dit si Freud avait eu besoin de cette construction, et, il doit y avoir quelques raisons à ça. Et donc, c'est pourquoi Lacan s'est beaucoup intéressé, non pas au meurtre du père, mais à la mort du père. Et la question de la mort du père est quelque chose qui nous hante tous, qui surgit dans nos rêves et qui surgit dans les rêves des névrosés sur lesquels ont été écrits un certain nombre de grands textes. Par exemple, vous avez un rêve du père mort chez une des hystériques de Freud qui s'appelait Dora, et vous avez un autre rêve d'un homme qui a un père très malade, qu'il doit soigner, qui souffre énormément, et un jour, il rêve que son père était mort, mais qu'il ne le savait pas. Et donc, Freud a lui-même décortiqué ce rêve, et Lacan reprend ce rêve et l'étudie et découvre une autre interprétation. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette interprétation, ni de celle de Freud, mais ce qu'on peut dire, c'est que le père mort a pour Freud une fonction très importante pour toute la structure psychique, mais aussi pour la structure sociale. Freud a une considération assez étrange dans ce quatrième chapitre de Totem et Tabou. Il a donc l'idée qu'il y a à l'origine de l'humanité une tribu qui s'oriente vers une existence humaine et qu'il y a là un chef de cette tribu qu'il appelle le père, et ce père possédant la jouissance de l'ensemble des femmes de cette tribu devient pour ses fils un être absolument insupportable parce qu'il les prive de toute jouissance, et donc il décide de le tuer. Et donc il le tue, et après ce meurtre du père, il y a un repas totémique, et donc le corps du père est donc mangé par les fils, qui par ce repas totémique, Freud, en se appuyant sur les ethnologues de son époque, par ce repas, chacun des fils peut se identifier à cet homme extrêmement fort et, de cette façon, espérer d'avoir incorporé les propriétés, à savoir avant tout la force de cet homme. Mais ce qui est étrange dans l'argumentation de Freud, c'est que une fois le père mort, il n'est pas remplacé, comme on le ferait dans toute autre circonstance. Vous savez, en politique, on a ça constamment, on destitue tel ou tel chef, et par un putsch ou par une autre procédure, et le plus fort des putschistes prend sa place. Pour Freud, pas du tout. Pas question que un des fils, même s'il s'identifie à cet homme hyper fort, pas question qu'il prenne sa place. Et ça, c'est un raisonnement, disons, on peut dire apolitique. Ça, toute l'histoire est pleine de renversements de régime et où telle ou telle figure paternelle ou tel ou tel chef est donc destitué et remplacé. Pas dans cette histoire de Freud. Et donc, ce vide de la place du père mort a une fonction tout à fait importante. Et Freud argumente donc qu'à partir de ce meurtre et à partir de ce repas totémique, il y a une sorte de entente entre les fils, et cette entente amène à la fondation de la loi. C'est-à-dire, d'une part, on ne remplace pas le père, et d'autre part, on ne touche pas aux femmes de la tribu, parce que, même si on a tué le père pour jouir de ces femmes. Donc, on se cherche à une femme ailleurs, dans une autre tribu. Parce que c'est ainsi que Freud explique les lois du totémisme, qui ont été déjà avancées par les ethnologues de son temps. Alors, ce qui nous retient dans cette histoire, qui est, pour Lacan, une histoire à dormir debout, c'est cette place vide créée par le meurtre du père. Eh bien, cette place vide, si on la laisse telle qu'elle est, la société, telle que Freud l'imagine, peut fonctionner par cette loi qui a été, donc, d'une certaine façon, fondée avec le consensus des fils. Mais il y a des situations, et ces situations, d'une certaine façon, nous les vivons, nous les observons, nous les voyons, où cette place est occupée. Et quand cette place est occupée, eh bien, on a des catastrophes. On a des catastrophes. Et, par exemple, on a des catastrophes politiques, mais on a aussi des crimes. Alors, je vais vous donner un exemple qui se trouve dans un écrit de Lacan des années 40 vers 46, où Lacan, c'est un écrit qui s'appelle, je crois, Psychanalyse et Criminologie. Et quelqu'un s'empare de cette place, quelqu'un s'y met, ou quelqu'un, de toute façon, se comporte de façon comme s'il occupait ces places. Donc, là, je vais donner un exemple que Lacan donne donc, dans cet écrit, où il parle des viols commis par des soldats d'une armée victorieuse sur les femmes de l'ennemi qui a été donc vaincu. Et ce sont des viols collectifs et qui d'ailleurs qui eut lieu dans plusieurs guerres et encore assez récemment en Bosnie. Et ce qu'on observe dans ces viols, ce que Lacan a fait observer par rapport à ces crimes, c'est que il n'y a pas seulement viol collectif sur les femmes, mais on choisit d'une certaine façon, un homme considéré comme impuissant ou comme châtré, qui est le témoin qui doit jouer les témoins de ces agissements. Et donc, on a là un exemple d'une obscénité énorme, mais où vous voyez que le père, qui au contraire devrait d'une certaine façon interdire un tel acte, et qui interdit quand il est en place, c'est-à-dire quand cette place vide est garantie, il est là, d'une certaine façon, présent sous une forme grimaçante, sous une forme de caricature, et donc on voit là effectivement que cette place vide du père est obstruée. Mais notre clinique en prison nous permet de montrer aussi ça dans des violences qui ne sont pas commises de façon collective, mais par exemple le cas d'un violeur qui avait l'habitude de sortir le soir vers 19h, 20h, de se rendre dans des quartiers, disons, un peu cossus, dans des banlieues, et de regarder par les fenêtres des villas. Et quand il voyait qu'une femme était seule à la maison, il s'introduisait dans cette maison. Parfois, il s'est contenté de se mettre dans un coin pour se masturber en regardant cette femme, et parfois, il la violait. Et donc, cet homme avait l'histoire suivante. Enfant, il a été lui-même extrêmement maltraité par sa mère et son beau-père, qui prenaient prétexte de ses masturbations pour le battre, pour le frapper, pour le maltraiter, toutes sortes de formes de torture que je répéterai pas. Et tout cela s'est passé exactement à l'heure de ses propres actes, c'est-à-dire toujours entre 19h et 21h à peu près. Donc, de cette façon, il remémorait ses propres traumatismes par son acte, et d'une certaine façon, il s'est vengé. Il était à la fois dans ce scénario qu'il avait réalisé par ses viols, parce qu'il y avait plusieurs, il était à la fois à la place de la mère maltraitante et de la victime, n'est-ce pas? Donc il était, d'une part, il remémorait sa situation de maltraitance, parce qu'il a été frappé sur ses parties génitales par ces deux personnes, et il agissait en même temps comme une sorte de tortionnaire sur ces femmes. Donc, si je dis que ce monsieur-là a également fait allusion à la fonction, à une fonction, disons, déplacée, détournée, pervertie du père, c'est parce que dans son schéma, l'idée de la vengeance était très importante. C'est-à-dire, il voulait aussi se venger de ce qu'il avait subi. Troisième exemple, en quoi celui d'un Müller qui a un jour, c'est un homme tout à fait à, disons dans la vie quelqu'un qui avait un travail, qui était marié, qui avait des enfants, qui avait une très bonne position sociale et qui travaillait beaucoup. Et un jour, il rentre à la maison et il passe devant la maison de son père qui n'était pas très loin de là et il voit sa demi-sœur, donc la fille que son père avait avec sa deuxième femme. Et après un certain nombre de réflexions, il décide de faire intrusion dans cette maison pour violer cette femme. C'est une jeune femme de 19 ans. Et donc, il a décrit l'état dans lequel il était. Il était complètement absent à lui-même, d'ailleurs comme l'autre. C'est ce que ces agresseurs nous disent, c'est qu'au moment de l'acte, ils ne sont pas là. Ce n'est pas seulement des dénis, parce que beaucoup de psychologues ou psychiatres travaillant en prison ne manient que ce concept-là. Ce n'est pas un déni, c'est un fait que dans beaucoup de passages à l'acte, le sujet n'est pas présent. Et donc, en le questionnant sur son histoire, et avant tout sur la question, est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez fait ça dans la maison de votre père, est-ce que ça jouait un rôle? Il a d'abord nié, ce qui m'a plutôt convaincu de l'idée qu'il y avait là quelque chose. Et ensuite, il m'a parlé de son père. Et ce qui a été intéressant, c'est que son père, bon, d'une part, il a élevé dans la non-amour la plus totale, donc, c'est-à-dire, ce garçon était là pour travailler, ce qu'il a fait, mais pour rien d'autre. Mais avant tout, le père s'est comporté d'une façon extrêmement étrange après cet acte de son fils. C'est-à-dire, d'une part, il a fait le siège au tribunal pour convaincre la juge d'instruction qu'il fallait absolument laisser tomber l'accusation, ce qui était ridicule parce qu'un juge ne va pas se plier aux vœux du père. Donc, ce père qui ne s'est jamais occupé de son fils et qui ne s'occupe plus de son fils, maintenant il est en prison. À ce moment, il s'est éveillé. Il voulait absolument lui faire la loi. Et d'autre part, il a interdit à sa fille, donc à sa propre fille, de se porter partie civile. Donc, à un certain moment, elle a obéi. Et ensuite, la juge d'instruction a convaincu qu'il fallait absolument se constituer en partie civile pour le procès. Alors, là aussi, vous avez une figure de père assez obscène, finalement, qui veut lui-même faire la loi, au lieu de la représenter ou de cette façon, de faire que la loi puisse fonctionner. Donc d'une certaine façon joue un rôle important dans le passage à l'acte. D'autre part, ce monsieur qui s'entendait plus tellement avec sa femme, qui était assez frustré, il avait puisé ses fantasmes dans les cassettes porno que son père accumulait à la maison, n'est-ce pas? Donc c'était un homme extrêmement sévère, mais en même temps, il y avait ce côté jouisseur qui a eu son effet sur son fils. Donc c'est pour vous, simplement pour argumenter, pour montrer en quoi cette occupation de ces places vides, n'est-ce pas, est extrêmement problématique. Et dès le moment où quelqu'un s'arroge le droit d'une certaine façon, de se prendre pour le père avec un grand P, c'est-à-dire pour Dieu, ou pour le législateur, effectivement, il y a danger pour la société et pour les enfants, bien sûr, de cette personne. Bon, donc, ceci, pour vous montrer cette intrication entre le crime, la société, mais aussi ce que Lacan appelle le symbolique, n'est-ce pas? Donc, le père est un concept qui fait partie de ce qu'il appelle le symbolique.
Est-ce que cette place, quand vous dites que ça laisse une place vide,
oui,
c'est aussi la place d'un symbole?
Oui, bien sûr.
C'est une place vide qui a été pas occupée par une personne, mais il y a
toute l'histoire
du système et tout ça. Il y a quelque chose qui s'édifie à ce moment-là.
Oui. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut fonctionner comme père ou comme, par exemple, homme politique que si on respecte cette place. Sinon, ça fait des plus ou moins petits ou grands Hitler, n'est-ce pas? Donc,
ce que je cherchais presque, c'était la nature de ce vide, justement.
La nature de ce vide, je ne sais pas si on peut parler de la nature de ce vide, mais on peut, d'une certaine façon, essayer de... Moi, j'ai fait ça avec ce récit de Freud qui est en lui-même assez dépassé aujourd'hui. Tout le monde sait que ce crime n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas de trace d'un père, un grand singe qui aurait été tué. Cela, il n'y a rien. Mais, évidemment, ce qui est intéressant dans ce récit, c'est justement que les fils, il n'y a pas de succession à ce moment. C'est-à-dire, la loi se fait par une sorte d'égalité, par un consensus basé sur une égalité entre les fils du père et le respect de cette figure. Sans substitution possible. N'est-ce pas? Donc, du coup, Freud, bien sûr, dit Dieu, c'est le père. N'est-ce pas? Donc, il déconstruit le concept de Dieu par la figure du père.
Il dit, à un moment, il dit aussi que jamais le père n'avait été plus aimé et plus puissant que mort.
Oui, voilà, exactement. Exactement. Ouais.
Il y a la culpabilité aussi.
Oui, oui, bien sûr, il y a la culpabilité. Il y a beaucoup de. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Oui, non, mais je voulais pas faire une lecture de ton thème métabo, mais je pense que ce qui m'a surpris, c'est l'actualité de ces textes dans la clinique qu'on peut élaborer à partir d'un travail avec des gens qui sont passés à l'acte. Et voilà. Alors, si on a encore un peu de temps, je vais parler. Oui.
On parle bien le lien avec la prison.
Vous voyez pas le lien avec la prison.
C'est un petit résumé de Totem et Tabou, mais quel est le lien avec la prison?
Ah, non, mais ces gens dont tu parles, ils sont en prison. Donc, je les ai rencontrés en prison. n'est-ce pas? Donc,
au niveau du lien théorique, c'est un peu léger, ça.
Non, c'est pas léger, parce que, au contraire, je pense que c'est si on retrouve un problème théorique, un problème de texte dans l'expérience clinique, c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que je vous ai dit, que je pense que si Freud a laissé cette place vide, n'est-ce pas, ça avait une fonction très importante. Et ce que j'ai montré par ces exemples, c'est l'occupation de cette place et les catastrophes, disons, subjectives entraînées par cette obstruction, l'obstruction de cette place vide.
Oui, mais on va trouver ces situations dans d'autres
par exemple,
cas cliniques.
Dans quoi?
Qui n'ont pas forcément un lien avec la prison.
Ah, mais ça a mené à des crimes, donc c'est les liens entre la prison et totem et tabou.
En l'occurrence, vous parlez beaucoup plus de cas cliniques que de prisonniers, c'est-à-dire.
Mais je parle de gens qui sont en prison, qui m'ont raconté leurs histoires, donc je suis pas un spécialiste des prisons, je suis pas un sociologue, je vous ai parlé au début brièvement de la situation qu'on peut retrouver dans les prisons que je fréquente, mais c'est pas ma tâche de faire une enquête ou une recherche sur la prison. Ma tâche est de faire une enquête sur les sujets qui sont en prison. C'est ma fonction.
Chacun peut se donner pour tâche de réfléchir à la prison.
Comment?
Chacun peut se donner pour tâche
oui.
De réfléchir
ben à la oui, prison. Bien sûr. Bien sûr.
C'est la liberté de la réflexion.
Oui, mais c'est un peu plus précis ce que je fais là.
En même temps, vous dites très peu de choses.
C'est-à-dire?
Vous dites très peu de choses sur.
Sur quoi?
Sur l'endroit où vous avez été écouté ces personnes, qui est quand même un endroit très particulier.
Oui, non, mais je peux vous dire beaucoup de choses sur l'endroit, mais est-ce que ça aurait un intérêt? Alors, l'endroit où je rencontre ces personnes, c'est un endroit où les personnes en question sont privées des libertés, sont de cette façon soumis à un certain nombre de mesures disciplinaires qui sont parfois difficiles à supporter. Donc, si vous voulez entendre des choses comme ça, je peux vous raconter ça. Mais c'est pas le sujet de mon exposé ici.
Vous travaillez dans quelle optique avec les personnes que vous recevez? Qu'est-ce que vous imaginez pouvoir faire, par exemple?
Mais ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre quelque chose sur le passage à l'acte. Ce sont des. C'est quelque chose qui est très énigmatique et donc sur éventuellement sur la causalité dans le passage à l'acte. Vous ne pouvez pas dire pourquoi tel sujet est passé à l'acte si vous n'avez pas un peu reconstruit son histoire, si vous n'avez pas construit l'enchaînement des faits, des dits qui précèdent l'acte.
Dans votre présentation, vous dites, parce que je suppose que c'est ce que vous avez écrit, vous dites, je montrerai sur la base de mon travail clinique que l'on peut préciser la part de la société dans la genèse de la criminalité.
Oui.
Je m'attendais à ce que vous développiez ce,
oui,
cette dimension.
Oui.
Vous parlez simplement de travail clinique sans même engager une réflexion sur la part, ce qui peut être la part de la société dans la jeunesse de la criminalité.
Mais, oui. Vous ne me laissez pas parler, sinon j'aurais parlé de ça, mais si vous voulez, on peut en parler, oui.
Non, c'est pas...
Mais...
Comment ? C'est vous qui l'avez écrit, ça ?
Oui, oui. Bon. Oui, mais on est là pour parler de ça, oui.
Ah, bon.
Oui. Alors, donc, je considère, si vous voulez... que la, je ne pense pas du tout que la société qu'on puisse attribuer à une causalité sociale, disons univoque, à un passage à l'acte ou à un crime. Je pense que c'est quelque chose de complètement dépassé. Je pense que il faut essayer de voir d'une part de repérer la causalité psychique qui amène à un passage à l'acte, mais il ne faut pas non plus négliger la situation sociale dans laquelle se trouve tel ou tel sujet. Qui est donc devenu délinquant. C'est assez complexe. Le crime en lui-même peut être un fait social, n'est-ce pas ? Donc, un sujet qui passe à l'acte se confronte automatiquement à la société et il aura un retour de la part de la société. Et la société elle-même peut contribuer à un crime. Je peux vous donner un exemple. C'est quelque chose qu'on observe très, très fréquemment dans des cas de maltraitance d'enfants. Donc, et qui sont malheureusement toujours plus nombreux. Et... donc, vous avez par exemple, ces dernières années, les deux dernières années, vous avez eu trois cas assez semblables de meurtres d'enfants commis non pas par des pédophiles ou par des criminels sexuels, mais par des sujets qui ont partagé un trait, c'était des drogués, qui vivait avec la mère de l'enfant. Et donc, ces trois personnes avaient en commun d'avoir maltraité et même torturé l'enfant. La mère de l'enfant n'est pas intervenue pour des raisons qu'il faut effectivement... trouver, articuler, et l'enfant est décédé à cause de ces actes de barbarie. Alors, ce qu'on observe dans les trois cas, c'est que l'entourage de la mère et de leur partenaire a fermé les yeux. Et l'entourage fait partie de la société. Il n'y a pas seulement l'entourage familial, mais aussi des instances scolaires, médicales, etc. Et donc, si ce fait se répète, si on retrouve ça dans plusieurs cas, dans deux pays différents, à savoir deux cas en France, un cas en Allemagne, ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Et donc, dans le cas que j'ai observé, il y a eu donc maltraitance de la part d'un homme qui s'est drogué sur un enfant, sur un garçon de 5 ans. La mère vivait avec cet homme et il était incapable, dit-elle, là aussi la vérification est difficile, d'intervenir et de défendre son enfant. À un certain moment, l'enfant était si malade qu'il fallait aller chez un médecin. Le médecin a vu l'enfant, mais il n'a pas fait hospitaliser. Les autorités scolaires n'ont pas alerté. L'enfant n'allait plus à l'école. Alors que d'autres enfants connaissaient ce garçon et se renseignaient sur lui. Donc vous avez là personnes, donc ne parlons pas des voisins et des parents la mère de l'enfant. Donc vous avez là un environnement qui n'a pas fonctionné, qui s'est rendu d'une certaine façon complice du crime, et un certain nombre de personnes sont mis en examen. Avec la mère et bien sûr le partenaire de la mère. Donc, je considère que là, effectivement, on n'a pas une causalité, disons, une sorte de pousse au crime qui se trouverait du côté de la société, mais on a un laisser-faire, c'est-à-dire une non-intervention qui tourne à réfléchir, parce que c'est la même situation que vous avez quand vous avez un crime sur telle ou telle minorité, etc. N'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est un exemple qui montre que la société est très souvent impliquée dans des passages à l'acte criminels. Est-ce que vous avez d'autres questions?
J'avais une question pour vous. Oui. La place dans l'hôpital, en prison. Je me disais, au moment où déjà à l'hôpital, il y a sa place, il y a une mort et vite.
Oui.
En prison, de la rivière, il y a intervenir en prison, qu'est-ce qu'il y avait un statut spécifique, ou alors c'était juste.
Non, non, on a un statut. Ouais, j'ai un statut. Je suis employé comme psychologue parce que j'ai un diplôme en psychologie. Mais j'insiste sur mon statut de psychanalyste et je me présente toujours comme psychanalyste et je suis reconnu comme psychanalyste par mes collègues à cet endroit.
Question là justement, par la démonstration que tu nous as fait de la société, enfin qui est proche et plus éloignée des institutions, enfin des institutions par rapport à l'enfant. Tout à l'heure, il y a un truc que tu as dit, c'est que ce patient qui après a eu un problème au cerveau, t'avait dit à toi qu'il n'avait pas commis ce crime.
Oui.
Alors, bon, ou soit tu restes dans un truc de confessionnat, si tu veux, c'est une bonne espèce de confession, ouais. Et point barre, quoi. Ou bien, puisque tu as placé une espèce de reconnaissance, tu as une part, etc. Au niveau du, je ne sais pas comment ça fonctionne en prison, de ce point de vue-là, comment la parole de la psychanalyste peut-il être entendue, même si lui-même n'a pas les capacités d'investigation, si tu veux, pour démontrer les choses, l'innocence de cette personne qui t'aurait délivré ce secret. Est-ce qu'il voulait protéger quelqu'un d'autre ou des compagnons d'Amazon, après de voir en termes cliniques comment tu interprètes. Mais quel... Je ne vais pas dire non pouvoir.
Oui.
Quelle possibilité as-tu pour intervenir des
très
gens
peu,
qui sont
très peu. Je,
malgré
je,
eux, si tu veux.
Moi, je lui ai dit d'écrire immédiatement à son avocat et d'accuser ou de donner le nom de la personne qui a fait ce qu'il n'a pas fait selon ses. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que pour les raisons qui lui sont propres et que je ne voudrais pas produire ici. Mais je ne sais pas s'il est coupable ou non. Je n'ai aucune preuve de
mais, ça crée le doute quand même.
Ça crée le doute. Ça crée le doute, oui. Oui, les sujets sont parfaitement libres. Mmh. Et il faut respecter leur liberté. Je n'ai aucun moyen de forcer quelqu'un. De dire ce qu'il ne veut pas dire. Donc,
c'est comme l'enfant, par exemple, qui ne dira jamais qu'il a été battu, quoi. Ou la fille qui ne dira jamais que son père le viole. Enfin, tu vois, bon, si tu es témoin de ça ou tu as entendu dans le doute, bien sûr, on ne parle que des cas où, effectivement, la fille, elle a menti, elle ne s'est pas vu qu'elle était violée dans le RER. Enfin, tous les cas de mensonges, elles sont connus, si tu veux. Parfois, c'est monté pour d'autres raisons, pour exister de façon d'exister, etc. En passant. Mais dans les cas où on est dans le doute, s'agissant de mineurs, effectivement, tu interviens parce qu'ils ont des capacités. Hein. Mais on peut aussi supposer qu'il y a des personnes dont leur place, comme tu as dit fort justement, aurait dû être dans ce qu'on appelle l'hôpital psychiatrique, qui ne prend plus en charge que des cas hyper soft, quoi, elle n'a plus envie de s'embêter.
Ouais.
Je dirais que c'est le cas, pas forcément des hôpitaux psychiatriques, mais d'une manière plus générale, de toutes les institutions qui ont un cahier des charges bien précis et qui font tous dans le soft. Enfin, c'est moins de problèmes, quoi. Partout pareil.
Ouais.
Ils lancent la patate chaude ailleurs, quoi. Actuellement, c'est un truc que je remarque, moi, à ce jour, comment fonctionnent nos institutions et puis les responsabilités, c'est la patate chaude, c'est pour l'autre. Il y a un petit peu de quelque chose de ce niveau-là au niveau des institutions, je dirais, qui sont pignon sur rue, reconnaissance d'État, etc. Alors cette personne qui devrait être dans un asile, dans un hôpital psychiatrique pour un certain temps, puisque non seulement il retourne la violence contre lui-même, mais il peut aussi s'autodétruire. Est-ce qu'on le sauve pas malgré lui, quoi ? C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque part comme l'enfant qui n'a pas la capacité de.
C'est-à-dire, on
ne
sait pas.
Ce type-là, par exemple, dans quel cadre. Bon, ça me fait penser que dans quel cadre on a fait à toi appel pour consulter, pour que ce prisonnier, tu vois, ait droit, enfin, ou je ne sais pas quoi. D'avoir affaire à, puisque voilà, t'as un crime, je ne sais pas du tout la sentence après, est-ce que c'est pour le soulager, est-ce que c'est pour le soigner, pour l'accompagner, quel était l'objectif, pourquoi on t'a fait appel à toi?
Mais parce qu'il allait mal,
hein?
C'est très simple, parce qu'il allait mal.
Bon, donc c'est pas lui qui a fait appel.
Mais bien sûr, il a fait appel. C'est lui qui demande.
C'est lui qui a fait appel. Donc il avait quatre. Bon, je ne sais pas faire. Bon, je ne sais pas. Oui. Hein. Tu vois, il y a un truc qui m'échappe là.
Quoi donc ?
Il fait appel à ce moment-là parce qu'il souffre, il est en souffrance.
Oui, mais c'était.
Parce qu'il veut avoir un témoin.
Non, mais c'était une longue. C'était une longue série de rencontres. Ça s'est passé pas sur trois fois. Non, c'était une longue série.
En fait,
ça durait plusieurs mois.
C'est un accident cérébral, si tu veux. Donc, je ne sais pas où tu en es maintenant avec lui.
Non, il a été transféré. Il n'est plus là.
Et il est vivant, il est mort, tu ne sais pas.
Ah non, il est vivant.
D'accord.
Je suppose. Ouais.
Donc, tu penses que si effectivement, au bout d'un certain travail, il aurait été amené à. Je ne sais pas, c'était quoi ça pour guérir de quoi, en fait pour se.
C'est guérir, c'est un grand mot. Hein,
oui, c'est pas parce que là,
les gens vont mal et ils veulent parler pour aller un peu moins mal. Donc c'est déjà pas mal.
Moi, ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est que c'est quelqu'un qui, normalement, dans le doute, toujours est-il qu'il ne devrait pas être là. Deux fois qu'il ne devrait pas être là.
Oui.
Bon, il devrait être plus tard en prison.
Ouais.
Parce que bon, il est en souffrance, aussi psy, etc., j'en sais rien, il devrait être dans un truc psychiatrique. Deux, il ne devrait pas être là du tout, parce que certainement, peut-être, il n'a pas commis ce crime.
Ouais.
C'est là que j'ai du mal, moi, à...
Bah.
À avoir ton... Tu vois, le rôle est juste... Que... Je ne sais pas.
Vous, vous travaillez, par exemple, avec ce que vous disiez du passage à l'âme.
Oui.
Est-ce que vous travaillez aussi à... en imaginant que ce qui vous intéresse, vous, là, la causalité psychique du passage à l'âme.
Oui.
Est-ce que ce que vous faites comme reconstruction de l'histoire, là,
tout ouais.
C'est quelque chose que vous imaginez, par exemple, que pour le patient aussi, c'est quelque chose qui l'aide à supporter, par exemple, là.
Bien sûr, ça l'aide.
Il a fini, ça l'aide.
Et bien sûr, c'est...
Bien sûr.
Bien sûr. C'est comme, comme si un procès est bien instruit, ça, ça, ça aide les gens. Hein. C'est la fonction d'un avocat est aussi de pas seulement de défendre le sujet, mais aussi de lui permettre de dire son point de vue. N'est-ce pas? Donc, pour pouvoir dire ça, il faut qu'il argumente. Nous, on fait dans certains cas aussi un argumentaire qui aide qui aide l'expert, ou qui n'aide pas, que l'expert est parfaitement libre de. Non, mais des sujets qui sont mis en examen. Rencontre des experts qui vont dire, si des psychiatres ou des psychologues, n'est-ce pas, qui vont dire s'il est responsable ou non, n'est-ce pas. Et si on pense que tel sujet n'est pas responsable, on travaille les arguments, par exemple, déjà les hospitalisations, les visites. Chez tel ou tel spécialiste, etc., pour que le sujet puisse dire à l'expert et à son avocat ce qui s'est passé dans sa vie, n'est-ce pas? Ça soutient les gens. Ce que font les experts, on n'a aucune influence là-dessus. Il y a beaucoup d'experts qui n'écoutent pas, qui ont ils écoutent les détenus pendant, je ne sais pas, une demi-heure. Et ensuite, ils font leur expertise. Là où on pense que le sujet n'est vraiment pas responsable, ne peut pas être responsable, effectivement, on essaie de mettre de tresser un certain nombre d'arguments pour qu'ils puissent se défendre devant... tribunal. Et pour que son avocat puisse dire quelque chose. Mais la situation réelle est telle que peu d'avocats sont aujourd'hui capables d'argumenter dans ce sens, d'argumenter à une non-responsabilité. Et ils ne le font pas.
Il faut dire qu'ils ont en face d'eux un système. Parce qu'on est passé de l'article 64 à l'article 122, que ce soit l'alinéa 1 ou l'alinéa 2,
ouais.
Qui maintenant condamne, juge et condamne
ouais.
Les gens qui souffrent de troubles psychiques graves.
Oui, ouais, mais si vous voulez. Oui. Mais si vous voulez, je suis contre l'idée que tout sujet qui souffre des troubles psychiques ou mentaux graves est irresponsable. C'est, si tout le monde est irresponsable, plus personne n'est responsable. Et l'inverse. C'est-à-dire, il y a des. Si on dit parce qu'on est irresponsable parce qu'on est psychotique, on n'a plus. On peut relâcher tout le monde. Hein, donc,
comment?
On peut relâcher beaucoup de monde dans nos prisons. Parce que, on peut les...
Donc vous êtes partisan de juger, de condamner
Non, je suis partisan de juger quelqu'un qui est responsable, qui même s'il est psychotique. Et il y a des moments dans une psychose où vous n'êtes pas responsable, mais il y a des moments où vous êtes parfaitement responsable. Et il y a beaucoup de psychotiques qui vivent tout à fait normalement, qui peuvent exercer de la profession, qui peuvent assumer des grandes responsabilités. Vous avez des hommes politiques qui sont visiblement psychotiques, mais qui assument tout à fait leurs responsabilités.
C'est sûr que ces hommes politiques que vous citez, avant d'avoir...
Je ne les cite pas.
Auxquels vous faites référence, avant d'avoir décompensé à un moment ou à un autre.
Je ne cite pas, mais c'est un fait d'expérience. C'est un fait.
Moi, je ne vous parle pas de ces gens-là.
Oui.
Vous parlez de gens qui sont passés à l'acte.
Oui.
Ce qui témoigne déjà d'un degré de souffrance relativement élevé.
Oui, mais.
Vous êtes partisans.
Monsieur, il faut encore.
Qu'on les condamne et que ces gens se retrouvent pour de très longues années en prison.
Oui, monsieur, mais il faut. Ça ne sert à rien de. Oui.
Presque idéal pour ces gens-là.
Mais ça ne sert à rien de généraliser. Si vous ne pouvez pas prouver, ou si vous pouvez pas, parce qu'on peut prouver très peu de choses, si vous ne pouvez pas argumenter que les passages à l'acte étaient commis dans un état hallucinatoire ou sous l'influence d'une voix, etc., personne ne va vous croire. Hein. C'est ça le problème. C'est passage à l'acte. Qui n'est pas dicté par une hallucination, par un délit meurtrier, eh bien, vous en êtes responsable. C'est comme ça.
C'est comme ça maintenant.
C'était toujours comme ça, monsieur.
Non, non, non.
Si,
non,
si.
Je suis désolé.
Mais
la
si.
La tradition française.
Mais vous savez.
Totalement opposé à où on en est maintenant. Il y a toute une tradition où le fou, hein, l'insensé, comme on l'appelait à l'origine, échappait. Hein.
Oui, mais il faut remonter très loin parce que si vous lisez le livre de Foucault, vous voyez très bien.
Je l'ai lu.
Oui. Mais par exemple, si vous prenez par exemple le crime de Sieur Papin, qui était visiblement très très malade, ils ont été en première instance condamnés, et donc c'est seulement l'une a été classée, je crois, et l'autre a été je crois la peine de mort a été transmutée en autre chose, mais non, c'est tradition. C'est vrai que actuellement nous avons à fait à beaucoup plus de condamnations qu'il y a encore 50 ans, 70 ans plutôt. Mais on n'a jamais relaxé des gens parce qu'ils étaient simplement parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient fous. C'est pas vrai. Non,
si,
désolé. Non, c'était pas.
Votre relax est lieu de placement.
Non, non, mais placé, oui, bien sûr, placé. Cet article s'applique quand, au moment du passage à l'acte, on peut dire que cette personne était sous l'influence d'une force qui l'a amené à son acte, mais pas parce qu'il est psychiquement malade. Donc, je crois qu'il faut distinguer ces deux choses. C'est pourquoi la question du passage à l'acte est très importante. Et vous avez des délits qui sont extrêmement dangereux et des délits qui sont extrêmement constructeurs. Il y a des délits qui aident le sujet à sortir de sa maladie pour un certain temps.
En se retrouvant condamné et en prison pour des années, dans un contexte pareil, vous pensez?
Comment ça?
Vous pensez que ça peut...
Non, je parle de vous avez des liens J'ai des psychotiques qui lui permettent de reconstruire son monde, n'est-ce pas? Il y a des délires qui sont dangereux, parfois pour le sujet lui-même, parce qu'il se suicide, parfois pour l'autre, parce qu'il passe à l'acte. Donc il faut, c'est pourquoi il faut faire une clinique très différenciée, très, très, très fine. Mais je ne pense pas qu'il suffit de dire parce que quelqu'un est psychotique, il n'est pas responsable, non.
Alors selon toi, quelle est dans les prisons, quelle est la part de personnes qui sont enfermées comme ça, qui auraient agi dans un domaine sous influence de délire, etc., et que ça n'a pas été reconnu?
Il y a beaucoup. C'est ça, le scandale est là. Le scandale est là, c'est que les...
Après, tu avais commencé à critiquer cette chose-là.
Oui.
Cette chose-là,
oui.
En introduction, en disant effectivement, il y a plein de gens qui sont en prison qui ne devraient pas l'être,
oui.
Puisqu'on ne les prend plus en centre psychiatrique.
Oui. Oui. Non, mais maintenant, ils construisent, il y a 4 grandes institutions qui accueillent effectivement les détenus qui ont commis des crimes. Et qui ont été déclarés non responsables. Et donc, on veut, c'est une promesse politique, des politiques, de construire plus de ces centres, c'est-à-dire accueillir toujours plus de gens malades dans des institutions psychiatrisées, mais qui sont en vérité aussi des prisons. Mais où ils sont plus mélangés au reste de la population, c'est-à-dire des drogués, c'est-à-dire qui ne sont pas des dealers, qui ne sont pas malades, hein, donc des voleurs.
Donc, de toute façon, quel que soit le truc, ils sont condamnés à être enfermés.
Oui, c'est-à-dire il y a deux choses, il y a deux perspectives qui sont.
La condamnation, c'est pas forcément quelque chose qui va dans un mauvais sens.
Ah non, pas du tout, parce que c'est pour ça qu'on vient de la distinction. Ouais.
La condamnation, si vous voulez, la condamnation va dans un mauvais sens là où les peines sont très très longues. Donc, mais le problème est quand vous condamnez quelqu'un pour un meurtre, un double meurtre, vous le condamnez automatiquement à la perpétuité avec une peine incompressible de, je sais pas, de 16 ans jusqu'à 30 ans, par exemple. Évidemment, à partir de 20 ans, c'est très long, n'est-ce pas? Donc, c'est une...
Alors, il y a théoriquement ce qu'on peut s'imaginer de ce que la loi pourrait venir organiser,
ouais,
pour une personne, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reconnu quelque chose que quelque chose se passe, des mots posés dessus, etc. Et après, il y a la réalité des prisons actuelles,
ouais,
en France, avec les viols, les machins,
etc.
À la limite, c'est vrai que ça doit être compliqué, du coup, d'avoir une position aussi par rapport, par exemple, à la quand monsieur disait la responsabilité, voilà, c'est ça.
C'est la question même qui doit être au centre de toute la réflexion. C'est-à-dire, c'est pourquoi il ne faut pas généraliser, parce que si on généralise, qu'est-ce que feraient les juges? Ils sont eux aussi sous une pression, n'est-ce pas, la pression de la société. C'est-à-dire, quelqu'un qui a tué, je sais pas, un enfant ou c'est ça, il faut les condamner, n'est-ce pas? Soit vous les condamnez, soit vous les mettez en hôpital psychiatrique ou dans un hôpital sécurisé. Il y en a 4 qui peuvent accueillir je ne sais pas combien de personnes. Donc si on ne multiplie pas ces centres, il n'y a aucune chance que ces gens soient correctement hospitalisés. Donc il faut les traiter en prison. Et donc... Donc, une fois condamnés, ils sont dans une prison, même s'ils passent de temps en temps dans un service médico-psychologique, on peut les accueillir quand ils font mal, mais ils passent quand même le reste de leur temps dans une cellule avec d'autres, etc., dans des conditions difficiles. N'est-ce pas? Donc, donc, c'est, ça pose un
problème. Vous faites référence aux UMD.
Oui.
Et il faut savoir que les UMD actuellement accueillent beaucoup plus de patients de type extérieur,
oui,
de l'extérieur, que de détenus patients.
Oui.
Oui. Oui. Parce que même ce genre d'établissement ne fonctionne plus en tenant ce rôle que vous dites qu'il tient.
Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais je ne les présente pas du tout parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais je sais de leur existence, n'est-ce pas? Donc, bon. Et j'ai dit, ça serait bien d'accueillir les malades dans ces centres, bien sûr. Mais comme ces centres sont limités, si on multiplie le nombre de ces centres,
ce serait bien, vous dites ça.
Oui. Ben, bien sûr.
Faire une petite visite dans ces centres-là, et puis on dirait si vous tenez toujours le même discours.
Mais vous savez, faites une petite visite dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Il n'y a pas d'institution idéale. Hein, donc.
Bon. Sauf qu'il y a une grosse différence. Parce que je sais ce que c'est qu'un HP, je sais ce que c'est que. Et l'évolution des services,
oui,
ces dernières années, eh bien, il y a une grosse différence. Hein. Quelqu'un qui bénéficiait, on va dire ça comme ça, de l'article 64,
oui,
antérieurement, se retrouvait dans un service fermé,
oui,
où la façon dont on le soignait était très très différente du malheureux qui se retrouve en UMD actuellement. Je suis désolé.
Oui.
Ben oui, mais ça, c'est pas des petites différences insignifiantes. C'est si on se soucie
mais,
vraiment...
Monsieur, je défends pas les dispositions actuelles qui concernent les malades mentaux. Je suis pas pour. Je sais que les conditions sont toujours plus mauvaises. Mais je dis, si on ne peut pas si on ne peut pas placer quelqu'un dans un tel centre, il faut les soigner en prison. Voilà. Et je pense ni sa situation dans un tel centre, ni la situation en prison est idéale. Mais ce n'est pas mon propos de m'indigner ou de réformer les prisons. Je n'ai pas le pouvoir pour ça. Donc il faut faire une démarche. J'essaie de changer la condition des détenus à mon niveau. Et je crois que ce n'est pas négligeable.
Pour en revenir à la fameuse irresponsabilité.
Oui.
Les deux premiers cas que vous avez présentés, vous avez cité les sujets qui disaient que il n'était pas là au moment de l'acte, il n'était pas présent.
Oui.
Alors, imaginons, je sais bien que c'est pas votre position et que ça ne sera jamais, que vous soyez en position d'expert.
Oui.
À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites aussi?
Mais, vous savez, c'est pas seulement ces deux personnes qui disent ça, c'est la plupart des personnes qui sont passées à l'acte ont un trou noir à ce moment-là. Ouais. Mais ça, est-ce qu'on peut dire vraiment, d'un point de vue psychanalytique ou même philosophique, qu'il n'y a aucune responsabilité? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui s'introduit dans une maison avec tel ou tel objectif et qui passe à l'acte et qui est effectivement à ce moment-là dans une absence de sujet, est-ce qu'on peut dire qu'il est irresponsable? C'est une question. Je tranche pas, mais c'est une question qu'il faut poser effectivement aux personnes concernées, c'est-à-dire aux juges, aux experts, et aux avocats, et bien sûr, avant tout, à la personne qui est mise en examen.
C'est une question qui n'est pas, faites référence à la philosophie, qui c'est pas une question, comment dire, totalement théorique. Je veux dire.
Non, c'est une question. Non, c'est une question. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit du point de vue psychanalytique, mais on peut soulever cette question aussi d'un point de vue philosophique.
Aussi d'un point de vue, du point de vue de la justice et du point de vue de l'administration.
Bien sûr. Oui. Oui. Donc, pour vous, l'absence du sujet dans l'acte signe de l'irresponsabilité. Non, mais je... C'est... Parce que vous savez, c'est du point de vue de la théorie du passage à l'acte dans la psychanalyse, cette absence est prévue d'une certaine façon. Et là, c'est... C'est raison. Et c'est pourquoi je pense que l'anamnèse est très importante. Donc, il faut aussi regarder l'histoire du sujet et l'enchaînement de ces différentes décisions. Il y a encore d'autres questions. Bon, écoutez.